Vous êtes bien sur Radio Orient, Wallis Glaise. Voici les titres de votre magazine d'information. Le conflit entre Israël et l'Iran qui a pris une nouvelle dimension après que les États-Unis ont frappé plusieurs sites nucléaires dans la nuit de samedi à dimanche. Donald Trump assure avoir infligé des dégâts monumentaux. Question, le programme nucléaire iranien peut-il être éliminé par la force? Élément de réponse avec David Rigoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique dans cette édition. En Syrie, un attentat suicide contre une église de Damas fait au moins 22 morts. En exclusivité sur Radio Orient, l'un des prêtres présents durant cet attentat, vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue dans votre magazine d'information. Nous commencerons par le point sur l'actualité et enfin nous développerons les dossiers du jour. Dans votre point d'actualité, les États-Unis ont bombardé donc dimanche 3 sites névralgiques du programme nucléaire iranien. Des frappes qui auront des conséquences éternelles, a prévenu Téhéran au 10e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. Il faut le savoir, l'Iran, le caïd du Moyen-Orient, je cite, doit maintenant faire la paix. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump du côté de la Maison Blanche. Un attentat suicide a visé l'église Mar Elias à Damas, causant 22 morts et 63 blessés. Les autorités syriennes accusent, elles, de leur côté, justement, l'organisation État islamique. L'ONU et la communauté chrétienne syrienne demandent des enquêtes et des protections accrues. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti que la Turquie ne laissera pas le terrorisme replonger la Syrie dans l'instabilité. À Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que les avancées contre l'Iran aideraient à résoudre la guerre à Gaza. L'armée israélienne annonce la récupération des corps de 3 otages détenus depuis le 7 octobre 2023. OTAN, augmentation des budgets militaires. Et les pays membres de l'OTAN se sont entendus pour augmenter les budgets de défense à 5% du PIB d'ici 2032, avec un objectif intermédiaire de 3,5% pour les dépenses militaires pures. L'Espagne, initialement opposée, a levé son veto. En France, les partenaires sociaux se sont retrouvés cet après-midi pour clore le conclave sur les retraites. Force ouvrière, la CGT notamment, ont quitté à la table la CFE-CSG qui se dit pessimiste. La CPME pose ses lignes rouges. Seule la CFDT estime que le patronat peut encore faire bouger les lignes sur la pénibilité et les carrières féminines. L'âge légal resté fixe à 64 ans. L'échec pourrait déclencher notamment une motion de censure de la part de la gauche. C'est la fin de votre point d'actualité. Vous le savez, place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Et nous allons commencer par le conflit entre Israël et l'Iran. Un conflit qui a pris une nouvelle dimension après que les États-Unis ont frappé plusieurs sites nucléaires dans la nuit de samedi à dimanche. Le président américain Donald Trump a assuré avoir infligé des dégâts monumentaux. Question, le programme nucléaire iranien peut-il être éliminé par la force? David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, nous donne sa réponse.
C'est la vraie question de fond en réalité, parce que ce qui est possible de faire, c'est de viser, de détruire éventuellement, ou en tout cas d'endommager très gravement, l'infrastructure du programme nucléaire iranien. C'était l'objectif déclaré des frappes qui ont été faites par les Américains sur les 3 principaux sites connus, en l'occurrence celui de Natanz, celui d'Ispahan et surtout celui de Fordo, qui est le plus profondément enfoui, et où étaient stockés l'essentiel des centrifugeuses qui permettent de fabriquer de l'uranium enrichi. Et il se trouve que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dirigé par Raphaël Grossi, avait évoqué le fait que l'Iran disposait désormais de près de plus de 400 kilos d'uranium à 60%, qui n'est pas un taux nécessaire pour une industrie civile, et qui était très proche, donc la possibilité très proche de le pousser jusqu'à 90%, qui est le seuil militaire. Et donc, évidemment, il y avait une accélération de la production de l'uranium enrichi à haut niveau, et c'est ce qui explique l'accélération des événements. Alors, il se trouve que dans le cadre du programme nucléaire en question, d'abord, concernant le résultat des frappes, il demeure pour l'instant encore difficile d'évaluer exactement. Les 3 sites ont été, semble-t-il, très endommagés. puisque les Américains ont mobilisé la fameuse bombe GBU-57, transportée par le fameux avion B-2. Ils ont utilisé près de 14 bombes, ce qui est considérable, parce que elles sont susceptibles d'aller jusqu'à 60 mètres de profondeur, même si on sait que l'infrastructure de Fordow, tout spécialement, va au-delà, 80, et même bien, bien au-delà. Donc, il y a là-dessus des incertitudes. Et puis, il y a une incertitude aussi sur le stock. C'est une question centrale qui aurait été déplacée, le stock d'uranium enrichi, et non pas l'outil qui permet d'enrichir l'uranium, qui, lui, a été gravement endommagé. Donc, on ne sait pas où se trouve ce stock, qui est un capital, en réalité, pour l'Iran. Et puis, l'autre capital, et c'est là où on retrouve votre question de départ, qui fait qu'on n'annule pas totalement le programme, il ne peut pas être détruit, c'est l'acquis nucléaire. Ce qu'on appelle l'acquis nucléaire, en réalité, ce sont les scientifiques, c'est la matière grise, c'est-à-dire l'ensemble, l'écosystème scientifique et technologique qui a été construit sur plusieurs décennies et qui fait que même si les infrastructures sont quasiment détruites, théoriquement, le programme peut repartir un jour puisqu'il dispose des ressources humaines.
L'implication directe des États-Unis dans la guerre contre l'Iran. 3 sites nucléaires ont été attaqués dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, qu'est-ce qui pourrait entraîner un risque de radioactivité? Question posée à présent au président de l'IPSE, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Emmanuel Dupuis.
Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est voulu rassurant, plus que rassurant. Peut-être d'ailleurs faut-il en être un peu inquiété parce qu'il a été très rapide pour dire qu'il n'y avait aucun risque de contamination nucléaire, que ce soit par rapport à la destruction d'un réacteur sur la centrale atomique de Natanz il y a quelques jours par suite aux frappes israéliennes, et notamment là pour le suite au raid des F-35 israéliens, mais surtout par rapport à la destruction massive, en tout cas preuve en est avec les images, d'un bombardement intensif, donc de bombes qui sont au minimum à 110 tonnes de TNT. Donc plus puissante que les bombes atomiques par rapport à la capacité donc détonative des bombes atomiques qui ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Donc est-ce que la question est pour l'instant minorée, pour ne pas dire marginalisée? En tout cas, il faut faire très attention parce que ça fait partie aussi de la narration iranienne de dire que ces frappes sont impérativement à proscrire, voire à juguler, parce qu'il y aurait un risque vis-à-vis de la population. Si on en croit l'AIAE, ce risque n'existe pas. Si on en croit un certain nombre de voix défendant ou ayant tendance quand même à chercher un arrêt des combats, on peut avoir l'impression qu'il y a un peu d'instrumentalisation par rapport à cette question donc de la dangerosité nucléaire liée au bombardement de ces sites.
Une question qui pourrait être au cœur de l'actualité dans les jours à venir.
Elle peut être d'actualité beaucoup plus pour Fordow que pour Natanz, pour une raison simple, c'est que la centrale atomique de Natanz n'était plus active. Et donc, le risque de dissémination, de contamination nucléaire en est quasiment réduit à néant, avant même les frappes qui ont été occasionnées depuis maintenant un peu plus d'une dizaine de jours.
Sur le dossier à Gaza à présent, la guerre en Iran ne doit pas faire oublier la situation dans la bande de Gaza. C'est en tout cas l'appel du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, les mots ce lundi de Jean-Noël Barrot depuis Bruxelles.
Tout cela nous fait oublier la situation à Gaza, où nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'entrée sans entrave, sans immédiat de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous discuterons du rapport publié par la haute représentante de l'Union européenne sur le respect par Israël de l'accord d'association qui le lie avec l'Union européenne. Ce constat établi clairement que Israël a violé l'article 2 de cet accord qui touche au respect des droits de l'homme. Nous allons avoir une discussion sur ce rapport, sur ce constat, dont il faudra tirer les conséquences lors du prochain Conseil des Affaires étrangères au mois de juillet. Et dans ce contexte, nous restons déterminés à reconnaître l'État de Palestine dans un mouvement collectif impliquant l'ensemble des parties prenantes et visant à crédibiliser, à rendre possible la solution politique au conflit israélo-palestinien, une solution à deux États reposant sur des garanties données aux deux peuples et en particulier des garanties de sécurité données par l'ensemble des acteurs à Israël et la possibilité donnée au peuple palestinien de disposer de l'État auquel il aspire légitimement. C'est dans ce contexte que nous préparons activement la conférence des Nations Unies, coprésidée par la France et par l'Arabie Saoudite, que nous avons dû reporter pour des raisons sécuritaires et logistiques.
Un attentat suicide a endeuillé hier la capitale syrienne, Damas. Au moins 22 personnes ont été tuées dans une église, donc une attaque imputée par les autorités au groupe État islamique. C'est la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier qu'un tel acte frappe le cœur de la ville. Les détails avec Nadia Bencher.
Dimanche matin, en pleine prière, un homme armé fait irruption dans l'église Saint-Élie dans le quartier de Douala. Il ouvre le feu avant de déclencher sa ceinture explosive. La déflagration déchire l'édifice. Des débris de bois et des icônes jonchent un sol maculé de sang. Le bilan est lourd, 22 morts, 63 blessés. Les secours évacuent les fidèles sous les yeux hagards des habitants. L'émotion est vive bien au-delà du pays. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Gay Pedersen, a réclamé une enquête approfondie, tandis que Washington et Paris condamnaient un acte de lâcheté contre une minorité vulnérable. Tous appellent à protéger les minorités et à garantir leur place dans une Syrie en reconstruction. Un nouveau défi sécuritaire pour Damas, protéger les minorités chrétiennes, est devenu un test majeur pour les autorités en place depuis décembre 2024. Déjà en mai, les services de sécurité avaient démantelé des cellules de l'État islamique près de la capitale et à Alep, faisant plusieurs interpellations. Le ministre de l'Intérieur, Anas Rattab, a assuré avec fermeté que l'État syrien ne céderait pas à la terreur et poursuivrait ses efforts pour la paix civile.
Et Radio Orient a pu recueillir le témoignage de l'un des prêtres présents dans l'église au moment de l'attaque. Le père Malatios Shtahi revient sur le déroulement du drame et adresse un message aux autorités syriennes actuelles ainsi qu'à la communauté internationale.
On a été attaqués. La messe était en cours, il y avait environ entre 250 et 300 fidèles dans l'église. Et puis on a commencé à entendre des tirs, les coups de feu se rapprochaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte de l'église. Ensuite, tout s'est passé rapidement. Certaines personnes disent que deux hommes armés sont entrés. D'autres disent qu'un seul était armé, que l'autre filmait. L'un d'entre eux a commencé à tirer dans l'église, ce qui a causé des blessés. Puis il a commencé à montrer la ceinture explosive qu'il portait à la taille. Les fidèles ont remarqué cela rapidement. Deux jeunes se sont précipités sur lui, l'ont plaqué au sol, l'empêchant ainsi d'atteindre le centre de l'église. Cela a permis de réduire les effets de l'explosion qui a quand même eu lieu dans l'église. Notre message s'adresse tout d'abord à notre peuple, à nos enfants. Nous savons qu'aucun mot ne pourra vraiment les consoler. Nous savons que notre croix dans ce pays est lourde à porter. Nous savons que c'est peut-être la première fois depuis 1860 qu'un attentat touche une église en Syrie. Le second message s'adresse à notre gouvernement, les responsables de notre protection. Vous me direz que c'est Daesh ou Al-Qaïda ou tel groupe, peu importe qui c'est. Ce qui nous importe, nous, c'est d'être protégés de tout mal ou danger qui pourrait nous atteindre en tant que Syriens, en tant que citoyens syriens dans ce pays.
Et cette attaque a été vivement condamnée par le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Golnisch.
Bien sûr, je suis horrifié et effaré. Cela nous ramène un petit peu à la situation à Bagdad il y a 15 ans où il y avait eu un attentat contre une cathédrale catholique syriaque. Là aujourd'hui, c'est une cathédrale grecque orthodoxe à Damas, mais également durant une messe qui est complètement contraire au principe de tradition de l'islam d'intervenir ainsi dans un lieu du culte. La plupart des musulmans respectent la prière, et même la prière des chrétiens. Donc nous sommes complètement horrifiés. Comme vous le dites, il y a de nombreux morts et, comme toujours, sans doute deux à trois fois plus de blessés, c'est-à-dire des gens qui peuvent être estropiés à vie. C'est un drame pour les familles, bien sûr, tout le monde le comprend. C'est un drame pour la communauté chrétienne et qui est... déjà dans une extrême inquiétude sur la situation sécuritaire de la Syrie et dans une grande incertitude sur son avenir et qui donc hésite à reprendre le chemin de l'immigration. Cela risque de marqué véritablement un exode des chrétiens.
Et vous lancez un appel également aux autorités syriennes et internationales. Vous leur demandez de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Quelles peuvent être ces mesures ?
Bien, écoutez, de fait, nous avons rencontré le président syrien, je l'ai rencontré. Il faut donc avoir les relations voulues pour le bien du peuple syrien. La question n'est pas de savoir si cela nous convient ou pas, c'est pas à nous d'en décider, c'est au peuple syrien. Il s'agit donc de servir le peuple syrien. Ceux qui ont pris le pouvoir à Damas ont trouvé un pays qui est en déliquescence, un État qui ne fonctionne plus, une armée qui s'est effondrée, des institutions qui sont déliquescentes, un peuple syrien qui est dans une extrême pauvreté, l'économie syrienne est arrêtée, les sanctions internationales ont nui aussi au développement de la Syrie, en particulier le blocage bancaire qui a été très redoutable sur la Syrie. Donc c'est dans ce climat qu'on voit cet attentat. Les autorités syriennes doivent prendre des dispositions et pas simplement avoir des mots de bienveillance, que je leur reconnais, mais bien prendre des dispositions concrètes de sécurisation des lieux de culte. Ça veut dire concrètement mettre des policiers à l'entrée des lieux de culte, comme parfois, au moment de grandes fêtes, il nous arrive de le faire en France à la demande du ministre de l'Intérieur. Par conséquent, il doit y avoir une sécurisation concrète devant tous les lieux de culte, en particulier ceux qui sont particulièrement menacés, comme les lieux chrétiens. Et donc, nous demandons aux autorités syriennes de mettre en œuvre une force de sécurité pour sécuriser les chrétiens, pour sécuriser les lieux de culte. Et nous demandons à la communauté internationale d'intervenir auprès des autorités syriennes pour que cela se fasse sans délai.
C'est la fin de votre magazine d'information. Merci de votre écoute. Merci à Raymond pour la réalisation. C'était Wallis Glaise. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.